La matinale de Radio Classique avec David Abiker.
Esprit libre avec ce matin Lucie Robquin des Échos. Bonjour Lucie.
Bonjour David.
Et Christophe Barbier, éditorialiste et écrivain qui vient de publié chez Grasset, moi Jean-Luc Mélenchon, il nous en dira un mot. À la fin d'Esprit Libre aujourd'hui, on va commencer par le conflit au Proche-Orient et ce qui s'est passé dans la nuit de samedi à dimanche. La France a concédé du bout des lèvres avoir participé à la défense d'Israël, parlant d'autoprotection de ses bases en Arabie et en Jordanie. Allié d'Israël, mais pas trop. Comment expliquez-vous cette ligne d'une grande prudence ?
Il y a deux raisons à cela. La première, c'est que la France abrite la première communauté musulmane d'Europe. Donc le président n'a aucune envie d'embraser les banlieues. Et la deuxième, c'est que le président veut à tout prix éviter que la défense d'Israël s'apparente à une forme de soutien au gouvernement de Benjamin Netanyahou. On sait que la communauté internationale condamne depuis des semaines les actions perpétrées à Gaza. L'embarras est aussi perceptible aux États-Unis, hein, qui hésitent à réduire les livraisons d'armes à Israël. On voit donc que ces pays-là évoluent sur une ligne de crête. C'est à la fois une volonté d'isoler l'Iran et une volonté de pousser Israël à ne pas riposter. C'est
Christophe, très compliqué. Il y a un autre responsable à tout cela, il s'appelle le général de Gaulle.
Ah,
c'est lui on y revient.
Il a quand même gravé dans le marbre cette position de la France, qui était une position pro-arabe et vis-à-vis d'Israël, un soutien, mais un soutien qui était teinté, plus que teinté parfois, de critiques. Le fameux mot de 1967, ce peuple d'élite sûr de lui et dominateur, a profondément marqué la diplomatie française. J'ajouterais à cela que le « et en même temps » macronien, qui marque des signes d'essoufflement dans la vie politique nationale, n'opère pas au niveau international. Être en même temps pour une coalition internationale contre le Hamas, comme le président l'avait annoncé, et en même temps, comme il l'avait dit à la BBC, très sévère avec Israël, ça finit par brouiller tout le monde, ça finit peut-être par nous brouiller avec beaucoup de monde. C'est une pensée complexe, nuancée, intelligente, qui semble équilibrée, mais qui finalement est aussi un peu un brouillard diplomatique.
Alors dans cette ambiance guerrière et militaire, je rappelle l'existence du front ukrainien, de ce qui se passe au Proche-Orient, un sondage cité ce matin, pas un sondage, une enquête, une étude universitaire du CNRS et de la chercheuse Anne Muxel, pour être précis, cité ce matin dans Le Parisien par Jean-Baptiste Isaac dans son éditorial. Cette enquête révèle que 57% des 18-25 ans seraient prêts à s'engager pour défendre leur pays. Les conflits du moment ont-ils un impact sur la jeunesse et le patriotisme ? C'est ce que semble dire Jean-Baptiste Isaac, les conclusions qu'il semble tirer de ce chiffre assez étonnant, en fait.
Non, ça semble assez logique. Ouais. C'est une génération qui n'avait jamais connu la guerre, d'ailleurs leurs parents non plus, et qui se trouve confrontée en l'espace de 3 ans à 2 conflits majeurs aux portes de l'Europe, l'Ukraine et Israël, vous l'avez dit. La théorie des années 90 selon laquelle on atteignait la fin de l'histoire, elle a totalement explosé depuis. C'est ce qu'on appelle aux États-Unis une sorte de wake-up call pour les jeunes. Et le plus surprenant, justement, c'est que les jeunes affichent un patriotisme nettement supérieur à celui de leurs aînés. Ça contrecarre donc un peu cette idée que les jeunes ont une forme d'indolence, sont rivés à leur téléphone. Un tiers d'entre eux est favorable au déploiement de troupes françaises en Ukraine. C'est 2 fois plus que chez les plus de 50 ans. C'est tout à fait passionnant. C'est un changement de paradigme.
Christophe, comment vous percevez est-ce que c'est une forme d'idéalisme ? C'est du patriotisme ?
Oui.
Qu'est-ce qu'il y a derrière ce regain ?
Derrière ce regain, il y a un besoin d'héroïsme. Quand on est jeune, on a besoin d'être le héros de son temps. Le vertige qui nous saisit à la terrasse des cafés, comme disait Musset, c'est pas du tout le mantra de cette jeunesse qui a envie d'action. On peut pas être seulement héros avec sa console de jeu devant son écran. On a envie de vraie action. Je pense que l'attitude patriotique, héroïque des Ukrainiens, à réveiller quelque chose de notre côté de l'Europe. Si l'essentiel est en jeu, est-ce que je suis capable de mettre ma vie en péril ? Et c'est ça aussi qu'on mesure. Alors maintenant, il faut le canaliser. Il faut bien le canaliser. Qu'est-ce qu'on fait ? On rétablit le service militaire ? Non, c'est pas possible. On crée une véritable force de réserve, comme l'ont nombre de pays. Il y a 900 000 Finlandais tous les ans qui se mobilisent. Il y a l'exemple aussi que donnent les Israéliens avec cette armée de réserve venue de tous les coins du monde qui s'est retrouvée pour défendre la patrie. Il faut qu'on réfléchisse vite à la manière dont on va canaliser ce bon patriotisme, ce bon désir d'héroïsme qui n'est pas un bellicisme. Voyons comment, dans un autre registre, ça a très mal tourné. Des jeunes mal d'action ou mal d'idéal, ils se sont aussi engagés pour Daesh parce qu'ils étaient malheureux dans nos banlieues. Et on les a laissés partir, on s'en est pas rendu compte et ça a fabriqué des terroristes et des dangers pour nous. Ben, essayons, puisqu'on a ce regain de patriotisme, d'en faire quelque chose de vertueux et surtout d'opérationnel.
Le paradoxe, Lucie, c'est que l'armée française a toujours du mal à recruter. Donc on voit effectivement que l'idéal reste assez éloigné de la réalité. 3000 postes non pourvus l'an dernier, c'est quelque chose qu'il faut régler de manière urgente.
Alors cet esprit patriotique, cet esprit de résistance, vous en avez parlé, Christophe Barbier, il en sera peut-être question. Dans le Vercors, aujourd'hui, à Vassieux, en Vercors, une séquence présidentielle intense en ce début de semaine, et effectivement, après les Jeux Olympiques hier, qui ont pour premier supporter Emmanuel Macron, voici venu le temps d'évoquer les mannes de la résistance, l'esprit de résistance, l'esprit patriotique. Évidemment, Emmanuel Macron est dans son rôle et entame une année de commémoration. 1944, c'est une date importante et 80 ans après, ça l'est tout autant.
Le mémoriel a une place très importante dans le double mandat d'Emmanuel Macron. Il a soigné, il n'a rien négligé en termes de mémoriel. Qu'il s'agisse de rendre hommage à des grandes figures qui disparaissent, il a multiplié le nombre d'hommages aux Invalides ou ailleurs, ou qu'il s'agisse de parler du passé pour mieux comprendre le présent et éclairer l'avenir. On peut faire beaucoup de reproches à ce président, mais pas celui d'être un président qui ne travaille pas la mémoire nationale. Et les entrées au Panthéon ont été aussi très très importantes. Maintenant, il y a une dimension politique-politicienne, on est dans les européennes, donc il s'agit aussi de faire campagne pour le président de la République. Il y a une dimension géopolitique. Ce qui est arrivé dans le passé peut revenir, on le sait. Donc, est-ce qu'on est prêt à de nouveau faire les bons choix? Et puis, il faut que le président y trouve une forme de lyrisme qui ne fasse pas sourire, mais qui soit pédagogique. C'est-à-dire qu'il faut que des générations aujourd'hui qui non seulement n'ont pas connu la guerre, mais n'ont connu aucun témoin ayant connu cette guerre, eh bien, il faut que ces générations continuent à porter le flambeau. C'est ça qui est important, faire de la pédagogie.
Lucie Robquin.
La séquence d'Emmanuel Macron sera beaucoup plus chargée que celle de François Hollande en 2014. Il y a effectivement cette volonté de porter la mémoire de la France qui est vraiment intrinsèque à Emmanuel Macron. Il y a les élections européennes et cette volonté aussi de distinguer les partis qui sont pour l'Europe et ceux qui sont contre. Évidemment, on vise LFI, on vise le Rassemblement National. Donc cette séquence, elle va débuter aujourd'hui. Elle se terminera le 6 juin en Normandie.
Trois jours avant les européennes.
Il n'y a aucun doute sur le fait que la date colle parfaitement à l'agenda d'Emmanuel Macron. En 2019, il s'était investi dans la dernière ligne droite dans les élections européennes. Ça avait fait une énorme différence pour le camp de la majorité. On sait que ces séquences mémorielles, elles plaisent tout particulièrement aux personnes âgées. Ce sont celles qui votent le plus. Elles sont très sensibles à ces cérémonies. Emmanuel Macron va mettre le paquet sur ce débarquement, ce 80e anniversaire du débarquement en Normandie. Il y restera a priori 3 jours. Et nul doute que ce sera une campagne anti-RN.
Vladimir Poutine était là en 2014. Il ne sera évidemment pas là cette fois-ci, mais il sera sur le terrain. Vladimir Poutine, ses armées attaqueront en Ukraine sans doute à ce moment-là. Ça pèsera aussi sur le scrutin et sur l'ambiance de ces commémorations.
Vous croyez vraiment qu'avec un Rassemblement National qui est déjà à 30%, les Français seront sensibles à cet esprit de souvenir, de mémoire?
Oui, si la réalité tragique réveille aussi une inquiétude. Il y a la mémoire, mais il y a aussi l'inquiétude contemporaine. Le côté « ça revient », c'est ça qui peut éventuellement mobiliser les Français autour du drapeau, autour de la liste de la majorité. Ça ne suffira pas à rattraper le retard. L'idée d'une Valérie Ayer passant devant Jordan Bardella semble aujourd'hui totalement illusoire. Mais passer de 15-16 points d'écart à 7-8-10 points d'écart, ça serait déjà un exploit.
Valérie Ayer a une certaine difficulté à combler cet écart, c'est certain. On voit que Raphaël Glucksmann parvient quand même d'une certaine manière à entretenir ce discours que le RN, c'est la guerre, c'est la défaite de la France face à la Russie. Il y a une carte à jouer, c'est aujourd'hui lui qui la joue le mieux. Espérons que Renaissance arrive aussi à capitaliser sur ce discours-là.
Dans les élections, il y a toujours un effet ligne et un effet bulle. L'effet ligne, c'est quand vous prenez les sondages puis vous tracez avec une règle la continuité. Si c'est l'effet ligne qui l'emporte, Glucksmann va passer devant Valérie Ayer avant le 9 juin. Si c'est l'effet bulle, alors là, c'est l'inverse. C'est un phénomène qu'on a cru solide et qui s'effondre dans la dernière ligne droite. C'est Bellamy, par exemple, en 2019. Et là, ça veut dire que Glucksmann, l'intellectuel parisien, ne touche pas les couches populaires et finit par s'effondrer le 9 juin. Est-ce qu'on aura une élection ligne ou une élection bulle le 9 juin?
Ce qui va se passer aussi cet été, c'est une menace sur les Jeux Olympiques, menace de grève. Alors là, on est dans un autre esprit de résistance, si j'ose dire. C'est celui des syndicats qui jouent pas du tout le jeu que voudrait jouer et faire jouer aux Français Emmanuel Macron, c'est-à-dire l'enthousiasme des Jeux, la mobilisation collective, la mobilisation nationale. Comment expliquez-vous que les syndicats se servent des Jeux Olympiques et de cette jolie cause pour faire avancer leurs propres intérêts? La réponse est peut-être contenu dans la question, mais c'est assez curieux quand même. Ils peuvent perdre beaucoup, les syndicats, à faire ce chantage.
Oui, oui, tout à fait. Ce serait fortement impopulaire que de jouer les troubles faits au cours de cet événement national et même international. J'ai peu de doutes sur le fait qu'au final, ils respecteront la trêve sociale. Ils ont beaucoup trop à perdre. En revanche, j'ai de sérieuses interrogations sur la facture que cela représentera pour les contribuables. On a déjà plus d'1 milliard de primes qui ont été promis aux agents impliqués au cours des Jeux Olympiques. La facture va augmenter et la France ne peut évidemment pas se le permettre.
Et on le voit avec M. Farandou à la SNCF, hein, il a fait beaucoup de concessions, ça a l'air de débloquer le conflit sur les fins de carrière, sur beaucoup de choses. Ça coûte cher en effet. C'est une manière aussi de faire du dialogue social à la française. Quand on leur donne du temps pour débattre sur l'emploi des seniors, bah, ils ne s'entendent pas. Mm-hmm. Mais quand ils sont là dans le rapport de force avec le mur des Jeux qui arrive, on finit par trouver un accord. Oui, ça coûte cher, mais si c'est de l'argent qui va dans la poche des travailleurs pour qu'ils le consomment, ça sera bon pour l'économie.
Je voudrais vous soumettre quand même un paradoxe, il est peut-être qu'apparent, mais les Jeux Olympiques vont embaucher, entre guillemets, des milliers et des milliers de bénévoles, et de l'autre côté, on a des fonctionnaires qui demandent des primes pour faire leur travail de service public. Là, il y a peut-être un hiatus, non ?
Il y a un surtravail quand même pour ces fonctionnaires qui ont dû repousser des vacances, qui vont subir un certain stress, ça va pas être simple. C'est normal qu'il y ait une prime. Il faut qu'il y ait de l'engagement, de l'enthousiasme, faut pas faire de chantage, mais c'est normal.
Faut-il qu'il y ait prime et chantage en même temps ?
C'est ça la France. Bon. Voilà, c'est ça la France. On n'arrive pas à le faire en se mettant d'accord autour d'une table. Il faut que ça crie, il faut que ça râle, il faut que ça grogne, il faut que ça menace. Bon, on peut le déplorer. Le tout, c'est qu'on aboutisse à des jeux réussis.
Non, je suis tout à fait d'accord.
C'est ça la France.
C'est ça la France. Oh, on ne la changerait pas, y compris pour les Jeux Olympiques.
Moi, Jean-Luc Mélenchon, Christophe Barbier, vous venez de publier ce livre chez Grasset. Vous êtes entré dans la tête de Jean-Luc Mélenchon. Vous pouvez nous dire en une minute ce qu'il y a dans la tête en ce moment de Jean-Luc Mélenchon, parce que beaucoup de gens ont du mal à le suivre, à le comprendre. Ça explique peut-être aussi le bon score dans les sondages de Raphaël Glucksmann.
Il y a deux choses. Il y a d'abord la vie d'un homme truffé d'événements, une vie romanesque, une vie lyrique. C'est un véritable tribun. Il a un talent. Il incarne la radicalité, il tire derrière lui une France qui est en colère. Et ça, c'est ma première partie, c'est un monologue de Jean-Luc Mélenchon qui raconte sa vie.
À jouer sur scène.
À jouer sur scène, bien sûr, c'est fait pour la scène, j'espère que des acteurs la joueront. Et puis il y a l'autre côté de ce Janus Mélenchon, il y a la dérive idéologique grave islamo-gauchiste, anti-laïque, anti-républicaine, que Mélenchon a embarqué depuis quelques années, a emprunté depuis quelques années. Et ça le mène au désastre, ça mène la gauche au désastre, et ça mène la France au péril.
Qui voyez-vous pour jouer Jean-Luc Mélenchon dans ce One Man Show ou ce seul en scène?
Lionel Astier était assez intéressé par le rôle, ça me plairait beaucoup parce qu'il a la corpulence pour Jean-Luc Mélenchon. Clovis Cornillac l'avait lu avec intérêt. Ah. Jacques Weber a réussi, je crois que le texte lui est parvenu. Grasset coédite avec Studio Fact Édition.
J'avais pensé à Daniel Auteuil, moi.
Daniel ou un avatar, il aime beaucoup les avatars.
Et pourquoi pas une femme? Ça serait intéressant de faire jouer Jean-Luc Mélenchon par une femme. Faut quand même un peu de coffre parce que ça mugit un Jean-Luc Mélenchon, ça rugit, mais Studio Fact qui co-édite le texte est prêt à produire le spectacle. Donc, avis aux acteurs et aux actrices.
Moi, Jean-Luc Mélenchon, ça vient de sortir chez Grasset, signé Christophe Barbier. Lucie, Christophe, on va se quitter avec un compositeur né un 16 avril 1889. Sa carrière d'acteur et de metteur en scène a éclipsé ses talents de compositeur et de musicien. On lui doit la musique des Feux de la Rampe, notamment. Vous aurez deviné de qui je parle. Charlie Chaplin, bien sûr.